Le libre dans tous ses états, c'est un tout petit bout de divergence numérique que vous retrouvez tous les jeudis à 12h30 et 17h30. À présent, eh bien, un hommage à Aaron Swartz autour de ce doublage que l'on vous propose de son intervention lors du Free to Connect 2012 où il était revenu sur la loi, le projet de loi SOPA qui avait été d'abord connu sous le nom de COICA et puis sous le nom de PIPA. Ça se passait aux États-Unis. Tout le monde a été témoin ici en Europe de la mobilisation des citoyens autour du projet ACTA qui grosso modo proposait à peu près les mêmes choses. Là, il s'agissait de menacer la liberté de se connecter à Internet. Et donc, il raconte pendant une vingtaine de minutes toute cette aventure, etc. Aaron Swartz, un des petits génies de l'informatique qui participa à la création du protocole RSS pour les flux RSS à l'âge de 14 ans, qui a contribué aussi à la création, à la rédaction des licences Creative Commons et qui a fait de sa vie un espèce d'engagement, etc. Il s'est donné la mort, donc, il y a quelques jours de ça, dans des circonstances où, à la fois, il était un peu déprimé, mais aussi, il était poursuivi par une enquête fédérale pour avoir, on va dire, mis à disposition quelques millions d'articles scientifiques à partir d'un portail payant du MIT. Donc pas mal de mouvements autour de ça, une enquête interne au niveau du MIT pour savoir s'ils n'avaient pas un petit peu abusé dans leur poursuite. On avait vu la semaine dernière avec un éditorialiste américain que lui considérait que oui, ils avaient un peu poussé le bouchon un peu trop loin.
Mais que veut dire RSS, cher ami?
Que veut dire RSS?
Alors, je l'ai sous les yeux.
Tu l'as sous les yeux.
Really Simple Syndication.
Really Simple Syndication. Donc, une syndication vraiment simple.
Très simple.
On écoute donc ce doublage de Aaron Swartz qui raconte cette histoire autour de SOPA qui démarra par un coup de fil.
So for me, it all started with a phone call.
Donc, pour moi, tout a commencé avec un coup de fil. C'était en septembre. Pas l'an passé, mais l'année d'avant, septembre 2010. Et j'ai un coup de fil de mon ami Peter.
Aaron,
a-t-il dit, il y a un projet de loi incroyable que tu dois regarder. C'est quoi? Je lui réponds. Ça s'appelle COICA. Combattre les infractions en ligne et les actes de contrefaçon. Alors je lui dis, Peter, je m'en fous de ces projets de loi sur le copyright. Peut-être que tu as raison, peut-être qu'Hollywood a raison, mais bon, c'est quoi le problème? Je ne vais pas passer ma vie à me battre sur un sujet aussi peu important que le copyright. La santé, les réformes financières, ça, ce sont les choses sur lesquelles je travaille. Moi, ça me fait plutôt peur, les lois sur les copyrights. Je pouvais entendre Peter rouspéter dans le fond. « Bon, j'ai pas le temps de discuter avec toi, dit-il, mais ça n'a pas d'importance pour l'heure. Il ne s'agit pas d'un projet de loi sur le copyright. Non ?»« Non, dit-il. C'est une loi sur la liberté de se connecter. » Là, j'ai écouté. Peter m'a expliqué, ce que vous savez sans doute tous depuis, que cette loi allait permettre au gouvernement de dresser une liste des sites Internet que les Américains ne seraient pas autorisés à visiter. Et le lendemain, je trouvais tout un tas de façons d'expliquer ça aux gens. Je leur disais que ce serait un pare-feu pour toute l'Amérique, que ce serait une liste noire d'Internet, que ce serait la censure en ligne. Je pense qu'il est bon de revenir un pas en arrière et de laisser de côté toute la rhétorique et de réfléchir un moment sur la radicalité réelle de cette loi. Bon, il y a de nombreuses fois où le gouvernement fait des lois sur nos paroles. Si vous diffamez une personne physique, si vous produisez une publicité qui ment aux gens, si vous faites une fête énorme avec la musique à fond toute la nuit, dans tous ces cas, le gouvernement peut venir vous arrêter. Mais c'était là quelque chose de radicalement différent. C'est pas que le gouvernement allait voir les gens et leur disait d'enlever tel ou tel message qui n'était pas légal. Cela fermait des sites entiers. Ça empêchait essentiellement les Américains de communiquer librement avec certains groupes. Il n'y a rien d'équivalent dans la loi américaine. Si vous jouez de la musique très fort toute la nuit, le gouvernement ne viendra pas vers vous avec une injonction de rester muet pour les deux semaines à venir. Ils ne vous disent pas « plus personne ne pourra plus faire de bruit dans cette maison ». Il y a une plainte spécifique à laquelle on va vous demander de remédier, puis votre vie continue. L'exemple le plus proche que je pouvais trouver était le cas où le gouvernement était en guerre avec une librairie pour adultes. On y vendait de la pornographie. Le gouvernement déclarait la vente de la pornographie illégale, mais frustrés, ils décidèrent de fermer tout le site. Mais même cela fut finalement déclaré inconstitutionnel, une violation du Premier Amendement. Donc on pouvait se dire, certainement que COICA va aussi être déclaré inconstitutionnel. Mais je savais que la Cour suprême avait un angle mort autour du Premier Amendement. Plus que tout le reste, la diffamation, le mensonge, plus que la pornographie, plus même que la pédopornographie, l'angle mort était le copyright. Quand on arrivait sur le copyright, c'était comme si une partie du cerveau de la justice était éteinte. Ils avaient complètement oublié le Premier Amendement. On sent que tout au fond, ils ne se sont même pas dit que le Premier Amendement s'appliquait quand on parlait de copyright. Ce qui veut dire que si on voulait censurer l'Internet, si on voulait arriver avec un moyen pour le gouvernement de pouvoir fermer l'accès à certains sites, cette loi serait la seule façon de le faire. Si c'était pour la pornographie, ce serait retourné par un tribunal, comme pour la librairie. Mais si la plainte concernait le copyright, ça pouvait bien passer. Et c'était particulièrement terrifiant, car vous savez, le copyright est partout. Si vous voulez fermer Wikileaks, c'est un peu tendu de le faire en disant que c'est parce qu'il y a trop de pornographie dessus. Mais ce n'est pas dur du tout de prétendre que Wikileaks viole les droits du copyright, car tout est copyrighté. Les mots que je suis en train de dire maintenant sont copyrightés, et il est si facile de copier quelque chose, accidentellement, si facile en fait, que le supporter républicain en chef de COICA, Orrin Hatch, copia illégalement du code dans son propre site de sénateur. Donc si même le site du sénateur violait la loi sur le copyright, quelles sont les chances qu'il trouve quelque chose pour épingler n'importe lequel d'entre nous ? Il y a une bataille qui a lieu en ce moment. Une bataille pour définir tout ce qu'il se passe aujourd'hui sur Internet en des termes que la loi comprenne traditionnellement. Partager un film sur BitTorrent, c'est comme faucher un DVD en magasin ou copier une cassette pour un ami. Est-ce que recharger une page encore et encore est un sitting virtuel pacifique ou une destruction de vitrine ? Est-ce que la liberté de se connecter, c'est comme la liberté de parole ou la liberté de tuer ? Cette loi serait une perte immense et potentiellement permanente. Si nous perdions la capacité à communiquer avec Internet, ce serait un changement de la charte des droits garantis dans notre Constitution. Les libertés sur lesquelles notre pays s'est construit seraient subitement supprimées. Les nouvelles technologies, au lieu de nous apporter plus de liberté, auraient emporté des droits fondamentaux que nous avons toujours tenus pour acquis. Et j'ai réalisé ce jour-là, en parlant avec Peter, que je ne pouvais pas laisser cela arriver. Mais ça allait arriver. Le projet de loi COICA a été introduit le 20 septembre 2010, un lundi. Et dans le communiqué de presse présentant ce projet de loi, tout en bas, il était programmé pour vote le 23 septembre, seulement trois jours plus tard. Et bien sûr, il fallait qu'il y ait un vote. On ne peut pas faire passer un projet de loi sans qu'il y ait un vote. Le résultat de ce vote était couru d'avance, parce que si vous regardez l'introduction du texte, ça n'était pas introduit par un membre véreux et excentrique du Congrès. Il était présenté par le président de la commission judiciaire du Sénat et soutenu par presque tous les autres membres, républicains comme démocrates. Donc oui, il y aurait un vote, mais il ne serait pas une surprise, car pratiquement tous ceux qui votaient avaient signé le projet de loi avant même qu'il ne soit présenté. Il faut souligner combien c'est inhabituel. Ce n'est clairement pas la manière dont le Congrès fonctionne. Je ne parle pas de la façon dont le Congrès devrait fonctionner, comme on le voit sur Scholar's Rock, mais je veux dire, ce n'est pas la façon dont le Congrès fonctionne en définitive. Je pense qu'on le sait tous, le Congrès est une zone morte de blocage et de dysfonctionnement. Il y a des mois de débats et de marchandages et d'auditions et d'esquives. D'abord, on est supposé annoncer que vous allez tenir les auditions sur tel problème, puis des journées d'experts qui vont parler du sujet, puis quand vous proposez une solution possible, vous rappelez les experts pour avoir leurs avis, et alors les membres ont tous des solutions différentes, ils proposent les leurs, vous passez du temps à débattre, et il y a des échanges pour ramener des membres à votre cause. Enfin, vous allez passer des heures en tête à tête avec chacun pour essayer d'arriver avec une sorte de compromis que vous allez extirper des coulisses de réunions sans fin. Et alors quand tout ça est fait, vous le prenez, vous le lisez ligne après ligne en public, au cas où il y aurait des objections et qu'il faille faire des changements, et enfin, vous avez le vote. C'est un processus douloureux. Il ne s'agit pas simplement d'introduire le projet le lundi et de le passer unanimement quelques jours plus tard. Cela n'arrive pas au Congrès. Mais cette fois, ça allait arriver. Et pas parce qu'il n'y avait aucun désaccord, il y avait toujours des désaccords. Certains sénateurs pensaient que le texte était trop faible et qu'il devait être plus dur. Comme elle avait été présentée, la loi n'autorisait le gouvernement qu'à fermer des sites. Ce sénateur voulait que n'importe quelle compagnie dans le monde ait le pouvoir de fermer un site Internet. D'autres sénateurs trouvaient cela un poil trop dur, mais d'une façon ou d'une autre, quelque chose qu'on ne voit jamais à Washington, ils ont tous trouvé moyen de mettre leurs différences personnelles de côté pour soutenir un projet de loi dont ils étaient persuadés qu'ils pourraient tous vivre avec. Une loi qui censurerait l'Internet. Et quand j'ai vu ça, j'ai réalisé que, quels que soient ceux qui étaient derrière tout ça, ils étaient bons. Bon, la façon la plus répandue de faire arriver de bonnes choses à Washington, c'est de trouver un paquet de riches compagnies qui sont d'accord avec vous. La sécurité sociale n'est pas passée parce qu'un brave homme politique a décidé en conscience qu'on ne pouvait pas possiblement laisser les gens mourir de faim dans les rues. Vous rigolez. La sécurité sociale est passée parce que G. Rockefeller en avait marre de sortir l'argent de ses profits pour payer la retraite de ses salariés. Pourquoi le faire quand on peut laisser le gouvernement payer pour les travailleurs ? Bon, la question n'est pas de dire que la sécurité sociale est une mauvaise chose. Moi, je pense que c'est fantastique. C'est juste la façon dont on peut amener le gouvernement à faire des choses fantastiques. C'est de trouver une bonne compagnie qui veut soutenir. Le truc, c'est que les compagnies ne sont pas souvent de grands fans des libertés civiles. C'est pas qu'elles soient contre, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'argent là-dedans. Bon, vous avez lu la presse, mais vous n'avez probablement pas entendu cette partie de l'histoire. Comme Hollywood l'a dit, la bonne et belle loi sur le copyright qu'il poussait a été stoppée par les mauvaises compagnies de l'Internet, qui font des millions de dollars sur des infractions au copyright. Mais ce n'était tout simplement pas vrai. J'étais là lors des réunions avec les compagnies d'Internet, qui sont probablement là aujourd'hui. Et si tous leurs profits dépendaient de violations du copyright, ils auraient investi beaucoup plus d'argent pour faire changer la loi sur le copyright. Le fait est que les grandes compagnies d'Internet, elles s'en sortiraient plutôt bien si cette loi passait. Ça ne les ferait pas sauter au plafond non plus, mais je doute que ça ait le moindre impact sur leur valeur boursière. Mais bon, ils étaient contre, comme le reste d'entre nous, principalement pour des raisons de principe. Et les principes, ça n'occupe pas une ligne très grande dans les budgets pour financer les lobbyistes. Alors ils se sont montrés très pragmatiques là-dessus. Ils ont dit, écoutez, cette loi va passer, elle va même probablement passer à l'unanimité. On aura beau essayer, c'est un train qu'on ne pourra pas arrêter. Donc on ne va pas la soutenir, mais à l'inverse, voyons comment on peut l'améliorer. Donc c'était ça la stratégie, faire du lobbying pour améliorer le texte. Ils avaient une liste d'amendements qui rendraient la loi moins inique, moins dispendieuse pour eux, etc. Mais le fait demeurait qu'à la fin de la journée, ce serait une loi qui censurerait Internet. Et il n'y avait rien que nous puissions faire pour l'empêcher. Donc j'ai fait ce qu'on fait tous quand on est un petit gars qui doit faire face à un futur terrible, avec beaucoup d'incertitudes et peu de chances de succès. J'ai lancé une pétition en ligne. J'ai appelé tous mes amis et on est resté là toute la nuit à monter un site internet pour ce nouveau groupe, Demand Progress, avec une pétition en ligne contre cette loi inique et je l'ai dit à quelques amis. Bon, j'avais déjà fait des pétitions en ligne auparavant, déjà travaillé avec certains des plus grandes communautés dans le monde qui font des pétitions en ligne. J'en avais écrit une tonne et lu encore plus, mais je n'avais jamais vu quelque chose de pareil. Démarrant pratiquement de rien, on a eu 10 000 signatures, puis 100 000 signatures, puis 200 000 signatures, puis 300 000 signatures, en à peine quelques semaines. Et ce n'était pas seulement des signatures. Nous avions demandé aux gens d'appeler le Congrès. Et il y avait un vote qui allait avoir lieu cette semaine, dans à peine quelques jours, et nous devions l'arrêter. Et en même temps, on avait informé la presse de cette incroyable pétition en ligne qui décollait. Puis on a rencontré du personnel et des membres du Congrès auprès desquels on a plaidé notre cause afin qu'ils retirent leur soutien au texte. C'était incroyable, c'était énorme. Le pouvoir de l'Internet s'est levé et a poussé contre ce projet de loi qui est passé à l'unanimité. Bon, pour être honnête, plusieurs membres du Congrès ont fait de beaux discours avant le vote. Dans leurs discours, ils ont dit que leur bureau avait été submergé par des commentaires sur les inquiétudes relatives au premier amendement derrière ce projet de loi. Des commentaires qui les avaient très inquiétés. Si inquiétés, en fait, qu'ils n'étaient pas sûrs de toujours soutenir le texte. Mais même s'ils ne le soutenaient plus, ils allaient quand même voter pour, ont-ils dit, car ils devaient maintenir le processus en mouvement. Ils étaient sûrs que tout problème qui surviendrait pourrait trouver une solution plus tard. Je vous le demande, est-ce que ça ressemble à Washington DC selon vous? Depuis quand les membres du Congrès votent pour des lois auxquelles ils sont opposés, juste pour maintenir le processus en mouvement? Je veux dire, quels que soient ceux qui étaient derrière tout ça, ils étaient forts. Et puis, tout d'un coup, le processus s'est arrêté. Le sénateur Ron Wyden, un démocrate de l'Oregon, a gelé le texte. Dans un discours où il qualifiait le texte de bombe nucléaire anti-bunker dirigée sur Internet, il annonça qu'il ne le laisserait pas passer sans modification. Bon, comme vous le savez, les sénateurs seuls ne peuvent pas arrêter un projet de loi, mais ils peuvent le retarder. En objectant à un texte, ils peuvent demander au Congrès de passer un paquet de temps à en débattre avant de le faire passer, et c'est ce que le sénateur Wyden a fait. Il nous a acheté du temps, beaucoup de temps comme on le verra. Son action a retenu le texte jusqu'à la fin de cette session du Congrès, si bien que quand le projet revint à l'ordre du jour, il lui fallut recommencer toute la procédure. Et puisqu'il devait recommencer toute la procédure, ils se dirent que tant qu'à faire, ils pouvaient lui donner un nouveau nom. Et c'est là qu'on a commencé à l'appeler PIPA et finalement SOPA. Il y avait donc un délai de 1 ou 2 ans. Et rétrospectivement, on a utilisé ce temps pour poser les fondations de ce qui allait venir après. Mais à ce moment-là, on n'en avait pas conscience. À ce moment, c'était plutôt qu'on allait dire aux gens que ces projets de loi étaient horribles et en retour, ils nous disaient qu'ils nous prenaient pour des fous. Je veux dire, nous étions des gamins qui allaient et venaient, les bras levés contre le gouvernement qui allait censurer Internet. Ça a l'air un peu dingue. Vous pouvez demander à Larry demain. J'étais sans arrêt en train de lui raconter ce qu'il se passait, essayant de l'impliquer, et je crois vraiment qu'il pensait que j'exagérais. Et même moi, j'ai commencé à douter. C'était une période difficile. Mais quand le projet de loi est revenu et a recommencé son parcours, tout le travail que nous avions fait a soudainement pris corps. Tous les gens à qui nous en avions parlé ont tout à coup commencé à s'impliquer fortement et à impliquer d'autres personnes. Ça a commencé à faire boule de neige. Ça s'est passé si vite. Je me souviens, une semaine, je dînais avec un ami de l'industrie des technologies qui me demandait sur quoi je travaillais. Alors je lui ai parlé de ce projet de loi et il a dit « Waouh, il faut en parler aux gens !» J'étais mort de rire. Et aussi, juste quelques semaines plus tard, je discutais avec cette jolie fille dans le métro. Elle n'était pas du tout dans le secteur technologique, mais quand elle a entendu que je bossais là-dedans, elle s'est tournée vers moi et m'a dit très sérieusement, « Tu sais, nous devons arrêter Soap. » Il y avait du progrès, non ? Mais je pense que ça illustre bien ce qui s'est passé durant ces quelques semaines, car la raison pour laquelle on avait gagné n'était pas que j'ai travaillé dessus, ou que Reddit ait travaillé dessus, ou que Google ait travaillé dessus, ou que Tumblr, ou quelques personnes que ce soit ait travaillé dessus. C'est qu'il y ait eu cet énorme changement des esprits dans notre industrie. Tout le monde essayait de trouver une façon d'aider, souvent de façon très intelligente et ingénieuse. Les gens ont fait des vidéos, des infographies, des comités d'action publique, ils ont créé des pubs, ils ont acheté des espaces publicitaires, ils ont écrit des nouvelles, ont tenu des réunions. Tout le monde considérait comme sa responsabilité de devoir aider. Je me souviens qu'à un moment donné, durant cette période, je tenais une réunion avec des groupes de start-up à New York à encourager tout un chacun à s'impliquer. Et je me sentais un peu comme si j'accueillais un de ces meetings d'initiative globale de Clinton, que j'allais devoir me tourner vers chacun de ces fondateurs de start-up dans la salle et leur dire « Vous là, qu'allez-vous faire ? Et vous ici, qu'allez-vous faire ?» Et tous d'essayer d'en faire plus que l'autre. Et puis est venu le jour où tout ce bazar s'est cristallisé. Je pense que c'était le jour des audiences sur SOPA à la Chambre, le jour où on a eu cette phrase « Ce n'est plus OK que de ne pas comprendre comment marche Internet ». C'était quelque chose de voir ces membres du Congrès qui n'y comprenaient rien débattre du projet de loi, de le regarder insister sur le fait qu'ils étaient capables de réguler l'Internet et qu'une bande de nerds ne pouvait possiblement pas les arrêter. Ils ont vraiment fait entrer ça dans l'esprit des gens, que c'était en train d'arriver, que le Congrès allait casser Internet et que ça n'avait pas d'importance. Je me souviens de la première fois où ça m'a frappé. Lors d'un événement, j'ai discuté et j'ai été présenté à un sénateur des États-Unis, en fait un des plus forts défenseurs du projet de loi originel, Koika. Et je lui ai demandé pourquoi, en dépit du fait d'être un progressiste, en dépit du fait de tenir un discours en faveur des libertés civiles, pourquoi est-ce qu'il soutenait un projet de loi qui allait censurer Internet ? Et vous savez, ce sourire typique des hommes politiques, il était soudainement effacé de son visage. Et ses yeux commencèrent à tourner au rouge vif. Il a commencé à me crier dessus. Il dit « Ces gens de l'Internet, ils croient qu'ils peuvent faire n'importe quoi et s'en tirer. Ils croient qu'ils peuvent tout faire sortir et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour les stopper. Ils font tout sortir. Ils font sortir des trucs sur nos missiles nucléaires et ils nous rient au nez. Eh bien, nous allons leur montrer. Il doit y avoir des lois sur Internet. Internet doit rester sous contrôle. » Alors, pour autant que je sache, personne n'a jamais sorti le truc sur les missiles nucléaires américains sur Internet. Je veux dire, c'est pas un truc dont j'ai entendu parler. Mais en somme, tout est là. Ces inquiétudes n'étaient pas rationnelles, ok ? C'était cette peur irrationnelle que les choses étaient hors de contrôle. Nous avions là un homme, un sénateur des États-Unis, et ces gens de l'Internet, eh bien, ils se moquaient de lui. Il devait être ramené sous contrôle. Les choses devaient être sous contrôle. Et je pense que c'était l'attitude du Congrès en entier. Et de voir ce feu dans les yeux du sénateur m'a fait peur. Je pense que ces audiences ont fait peur à beaucoup de monde. Les gens disaient que ce n'était pas là l'attitude d'un gouvernement réfléchi essayant de résoudre un compromis pour représenter au mieux ses citoyens. C'était plus l'attitude d'un tyran. Alors, les citoyens ont contre-attaqué. Tout s'est effondré assez vite après cette audience. D'abord, les sénateurs républicains sont sortis, puis la Maison-Blanche a fait une déclaration s'opposant au projet, et puis les démocrates, laissés tout seuls, annoncèrent qu'ils gelaient le projet de loi pour pouvoir mener de plus amples discussions avant le vote officiel. Et c'était là que, aussi difficile à croire que ça pouvait l'être pour moi, après tout ça, on avait gagné. La chose dont tout le monde disait qu'elle était impossible, ce que certaines des plus grosses compagnies dans le monde avaient rayé comme étant une chimère, était arrivé. Nous l'avions fait. Nous avions gagné. Alors, on a commencé à enfoncer le clou. Vous savez tous ce qui a suivi. Wikipédia s'est mis en berne, Reddit s'est mis en berne, Craigslist s'est mis en berne, les lignes téléphoniques sur Capitol Hill ont fondu, les déclarations des membres du Congrès ont commencé à se bousculer, retirant leur soutien au projet de loi qu'ils soutenaient deux jours auparavant. C'était franchement ridicule. Il y a un tableau de l'époque qui avait très bien capturé cela. Ça disait un truc du genre 14 janvier d'un côté, avec cette grosse et longue liste de noms soutenant le projet de loi, et juste quelques noms s'y opposant. Et de l'autre côté, ça disait 15 janvier. Et là, c'est tout le contraire. Tout le monde est opposé, et seuls quelques noms solitaires traînent encore en soutien au texte. Je veux dire, c'était vraiment sans précédent. Et pas parce que c'est moi qui le dis. Demandez donc à l'ancien sénateur Chris Dodd, maintenant lobbyiste en chef pour Hollywood. Il a admis, après avoir perdu, avoir été à l'origine de ce plan diabolique. Il a déclaré au New York Times qu'il n'avait jamais vu quelque chose comme ça durant ses nombreuses années d'exercice au Congrès. Et tous les gens à qui j'en ai parlé sont d'accord. Ces gens se sont levés et ont fait un raz-de-marée sur Washington. Pas la presse qui a refusé de couvrir cette histoire, dont les sociétés mères, coïncidemment, faisaient du lobbying en faveur du texte. Pas les politiciens qui étaient tous assez unanimement pour. Et les compagnies qui avaient toutes abandonné l'idée de stopper le projet et qui pensaient que c'était inévitable. Ce sont vraiment les gens qui l'ont arrêté. Les gens eux-mêmes. Ils ont mis à mort le projet de loi. Il est si mort que quand les membres du Congrès proposent quelque chose qui effleure Internet, ils doivent commencer par un long discours préalable pour expliquer en quoi ce n'est pas du tout comme SOPA. Si mort que quand vous en parlez au staff du Congrès, ils gémissent et secouent la tête comme si c'était un mauvais rêve qu'ils essayaient très fort d'oublier. Si mort qu'il est assez difficile de croire cette histoire. Difficile de se souvenir du peu qu'il aura manqué pour que le projet de loi passe. Difficile de se souvenir comment ça aurait pu se terminer autrement. Mais ce n'était pas un rêve ou un cauchemar, tout ceci était bien réel. Et ça arrivera encore. Bien sûr, ça prendra un nouveau nom, une nouvelle excuse, et ça fera probablement des dégâts d'une autre façon. Mais ne vous y trompez pas, les ennemis de la liberté de se connecter n'ont pas disparu. Le feu dans ce regard de politicien ne s'est pas éteint. Il y a beaucoup de personnes puissantes qui veulent s'en prendre à Internet. Et pour être honnête, il n'y en a pas des masses qui aient un intérêt personnel à le protéger de tout cela. Même les plus grandes compagnies, certaines des plus grandes compagnies d'Internet, pour le dire franchement, pourraient tirer profit d'un monde dans lequel leurs petits concurrents pourraient être censurés. Nous ne pouvons pas laisser ça arriver. Bon, j'ai raconté ceci comme une histoire personnelle, en partie parce que je crois que les grandes histoires comme celle-ci sont simplement plus intéressantes à une échelle humaine. Le réalisateur J.D. Walsh dit que les bonnes histoires devraient être comme les affiches de Transformers. Il y a un énorme robot méchant sur la gauche et une énorme armée sur la droite de l'affiche. Et alors au milieu, en bas, il y a une toute petite famille piégée entre eux. Les grandes histoires ont besoin d'enjeux humains. Mais principalement, c'est une histoire personnelle, parce que je n'ai pas eu le temps d'en rechercher d'autres parties. Mais c'est en quelque sorte de ça qu'il s'agit. Nous avons gagné cette bataille parce que chacun s'est fait le héros de sa propre histoire. Chacun s'est dit que c'était son boulot de sauvegarder cette liberté cruciale. Ils se sont jetés dedans. Ils ont fait tout ce qu'ils pensaient pouvoir faire. Ils ne se sont pas arrêtés pour demander la permission à quiconque. Vous vous souvenez comment des hackers ont spontanément organisé ce boycott de GoDaddy pour leur soutien à SOPA? Personne ne leur a dit qu'ils pouvaient faire cela. Quelques personnes pensaient même que c'était une mauvaise idée. Ça n'avait pas d'importance. Le sénateur avait raison, Internet est vraiment hors de contrôle. Mais si nous oublions cela, si nous laissions Hollywood réécrire le scénario comme quoi c'est juste la grosse compagnie Google qui a stoppé le projet de loi, si nous les laissions nous persuader que nous n'avons pas fait la différence et que nous commencions à considérer que c'est de la responsabilité de quelqu'un d'autre de faire ce boulot et que notre boulot serait de rentrer à la maison, de faire du pop-corn, de se blottir sur le canapé pour regarder Transformers, eh bien, la prochaine fois, ils pourraient tout simplement gagner. Ne laissons pas cela arriver.
Et on peut l'applaudir, Aaron Schwartz. Donc c'était l'année dernière lors du Free to Connect 2012 où il racontait justement cette histoire.
Divergence numérique, l'actualité du logiciel libre sur Divergence, et tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Terror States.